Alors aujourd'hui, dernier balado, épisode 7 de la série de 3 sur les fausses nouvelles. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux conseils pour mieux consommer les nouvelles scientifiques parce que c'est bien beau dire qu'on les consomme mal ou qu'on les consomme pas correctement ou qu'on consomme pas les bonnes choses, mais encore faut-il savoir un peu quel comportement ou quel truc adopter pour mieux s'approvisionner en nouvelles.
J'aimerais ça savoir, justement, en tant que scientifique, ce serait quoi vos conseils que vous donneriez, des conseils personnels, on s'entend, c'est pas la science infuse, mais en matière de nouvelles scientifiques, de consommation de nouvelles scientifiques, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens?
Ce que moi, je peux suggérer, c'est justement de pas aller chercher un outil en particulier, mais d'étendre les outils à notre portée. Donc, d'aller chercher individuellement les bonnes vis, les bons clous, les bons outils. Parce que quand on s'y connaît pas en outils, là, si on n'a jamais construit de maison, ben c'est normal que ça prenne du temps d'aller chercher des outils variés. Donc là, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Il faut prendre le temps, l'énergie de faire des choix, de choisir certaines sources que pour nous sont plus crédibles ou pas. Donc, c'est quand même un travail qui est un petit peu plus exhaustif quand on s'y met. Donc ça, c'est la première chose, là. Ensuite, je pense que ce serait vraiment de vérifier les sources, se renseigner un peu d'où vient cette source-là. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce que quand on ne connaît pas nécessairement quelque chose, c'est pas parce que c'est écrit science que c'est valide et solide. N'importe qui peut faire un site internet. Puis de prendre le temps de lire au complet là, la source qu'on vient de voir là. Donc c'est ça, c'est tout un exercice.
C'est sûr que parfois encore là c'est pas à 100% du temps valide, mais de regarder si c'est un expert qui parle vraiment, qui est reconnu dans ce domaine-là dans lequel il parle, parce que ça peut être encore un expert qui parle de quelque chose dans lequel il est pas vraiment expert. On en parlait tout à l'heure, donc c'est de valider peut-être qui parle aussi.
Surtout les conflits d'intérêts aussi, ça vaut la peine des fois d'aller.
les vérités scientifiques aussi, c'est pas l'histoire d'un seul homme, là. J'ai vu passer une infographie justement qui disait le degré de confiance que tu peux avoir en quelque chose, on raconte souvent l'histoire, mettons, d'Einstein qui a permis de révolutionner telle affaire. Où, on identifie quelques scientifiques qui ont permis de faire des grandes avancées, mais dans les faits, c'est souvent un travail d'équipe sur plusieurs années. Puis on identifie un individu parce que ça permet de raconter une histoire de fun dans les médias et tout ça, mais dans la réalité, c'est pas mal plus compliqué que ça. Fait que même si tu lis quelque chose d'un expert, il peut avoir fait le meilleur travail du monde et être 100% convaincu, mais ça se peut que pour des raisons inattendues, que finalement... Ce que lui a démontré, c'est pas tout à fait vrai. Qu'il y a des nuances qu'il y avait pas, qu'on connaissait pas à l'époque. Là. C'est même pas de la mauvaise volonté. Il pouvait juste pas savoir. Mais que dans 5 ans, on va réaliser que finalement, c'était pas ça. Puis l'autre groupe d'à côté, qui est aussi des experts, qui disait l'inverse. Fait que là, comment tu détermines lequel qui a raison, lequel qui a pas raison? Puis c'est deux sources crédibles. Sauf que c'est le temps qui va permettre, puis l'accumulation de preuves qui va permettre de dire, ah, finalement, peut-être que c'est pas lui, puis c'est l'autre. Fait qu'il y a toujours cette notion-là de garder des réserves, je pense. Là. Peu importe où tu prends ta source, c'est très peu probable que ce soit une vérité absolue.
Tout court. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme on parle d'informations qu'on a eues. Là, moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis sûrement vous aussi, là, buvez du lait, buvez 5 grands verres de lait par jour. Puis là, c'est rendu, le lait, c'est inflammatoire. Là, buvez pas de lait. là, c'est comme si on est, OK, ben là, on a reçu ça toute notre enfance, buvez du lait, c'est bon pour vous, miam, miam. Puis là, buvez-en plus. Fait que c'est un peu ce que Marc-André dit, c'est que dans le temps, c'est rare qu'un absolu va survivre à l'usure du temps.
Ben non seulement ça, c'est qu'il y a, à un certain moment... Il y a un phénomène qui peut être observé et vrai, mais ça l'est plus par après. Là. Par exemple, justement, le lait, c'est quelque chose que quand on est dans une société où on est moins bien nourri, le lait, il est parfait, il vient vraiment, ben, je dirais pas parfait, mais il vient combler beaucoup, beaucoup de besoins puis amener beaucoup de choses très, très importantes sur le plan nutritif. Donc là, oui, à ces gens-là, ou nous-mêmes, en fait, nous-mêmes, il y a peut-être 100 ans ou 50 ans, peut-être que ça nous amenait un gros plus de boire du lait, puis aujourd'hui, ben on n'a plus besoin tant que ça, là, donc la réalité a changé. Donc, quelque chose qui était vrai il y a 20 ans n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Et encore là, elle était vraie de façon nuancée à ce moment-là.
Puis pour en rester dans les analogies alimentaires, là, moi, je pense que l'idée de... Le conseil que je donnerais aux gens, c'est d'aller manger à différents ateliers, là, de goûter différents trucs, de pas toujours prendre tes nouvelles au même endroit. Peu importe ce que c'est, là, même si tu es convaincu que c'est la meilleure source au monde, va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ça va te montrer, ne serait-ce que de mieux comprendre les gens avec qui tu vas en parler, qui vont t'arriver avec des idées opposées. Mais même pour toi, ça va te permettre de te faire une meilleure idée globale de ce qui se passe.
De faire un brossage complet de tout ce qui se dit sur un même sujet pour justement avoir un...
Exact.
C'est un tableau complet de ce qui est disponible là-dedans.
Puis au final, plus de temps tu vas passer, plus ça va te permettre de faire maturer ta compréhension de la chose puis ton idée pour que ce soit quelque chose qui soit probablement un peu plus proche de ce qui est vrai.
Puis en lisant aussi, de garder un esprit un peu plus critique, c'est quand même important aussi, là. Donc, on a parlé un peu, si je sens que ça vient chercher beaucoup mes émotions, ah, ben là, pourquoi? Est-ce que je vais me faire, premièrement, convaincre plus facilement parce que ça vient chercher une corde sensible en moi ou ce que je suis en train de lire a été fait de sorte que ça va me convaincre plus facilement? Donc, moi, j'aime beaucoup poser des questions aux autres pour questionner leur raisonnement, mais c'est important de s'en poser à soi aussi pour questionner notre propre raisonnement au fur et à mesure qu'on lit quelque chose ou qu'on voit une vidéo.
Oui, tout à fait. Fait que questionner l'absolu, en fait. Quand il y a des trucs absolus en science, ce qu'on apprend aujourd'hui, bien, en fait, ce que les auditeurs vont apprendre, c'est que l'absolu est extrêmement rare, sinon inexistant en science. Donc, si vous lisez un article ou vous consultez une source puis que c'est vraiment quelque chose de très polarisé, très absolu, déjà là, ça devrait soulever un doute dans l'esprit du lecteur.
Je vous écoute parler, puis je trouve qu'on donne un peu l'impression qu'il ne faut jamais croire à rien de ce qu'on lit. Là. Fait que dans le fond, que tout, c'est pas valide. C'est pas tout à fait ça non plus. Je sais pas comment j'identifierais le milieu à travers ça. Je sais pas si vous avez d'autres inputs.
Oui, c'est vrai que c'est difficile à... J'ai l'impression que faut juste garder en tête que quand que j'accepte une vérité, moi, c'est une vérité temporaire et qui est possible d'être confronté. Là. Je pense que c'est plus un état d'esprit que...
Puis comment on fait ça psychologiquement, Carmen, en tant que... non, mais en tant qu'être humain, d'accepter l'inconfort de l'incertitude, si on veut, d'accepter que les choses restent pas comme elles sont. L'être humain, le changement, on sait que c'est quelque chose qui est difficile. Il y a des gens qui étudient en gestion du changement, donc c'est... Comment on fait, c'est quoi les trucs psychologiques pour accepter plus cette incertitude-là? Est-ce que t'en aurais?
Mais c'est, en effet, l'incertitude, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour l'humain. Donc, on a peur du noir parce qu'on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté devant nous, là. En fait, c'est important dans l'incertitude de se mettre quand même une ligne directrice. Donc, par exemple, moi, je me renseigne sur la nutrition, puis je pense que telle habitude est bonne pour moi. Puis, c'est ma ligne directrice, puis c'est là-dedans que je m'en vais. Par contre, je me nomme très clairement à moi-même que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me confronte là-dessus, ben j'ai une certaine curiosité à savoir qu'est-ce que cette personne-là a à dire. Donc oui, je me mets des lignes directrices claires qui vont dans une certaine direction, mais je fais preuve de curiosité quand je discute avec quelqu'un, plutôt que de laisser mon ego me protéger. Là. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont raison, on va un peu plus à droite, on va un peu plus à gauche, on suit quand même une même ligne, là.
C'est le fun ce que tu dis, parce que c'est essentiellement comme ça que la science avance, puis qu'avance notre compréhension du monde aussi. Là. On essaie de se faire un modèle d'une réalité qu'on ne comprend pas, ne serait-ce que pour comprendre, mettons, pourquoi la Lune bougeait dans le ciel. Là, on a émis des théories, on les a testées, puis là, ce modèle-là, il était incomplet parce qu'on ne comprenait pas tout. Mais là, avec ça, ça nous a permis d'aller un étape plus loin, puis d'un petit peu mieux comprendre, de développer des nouveaux outils qui nous ont permis d'aller un peu plus loin. Puis là, on a compris comment le Soleil marchait. Fait que là, à partir de ça, on a réussi à encore mieux comprendre comment ça se faisait que la Lune tournait. Fait que c'est vraiment cette notion-là de curiosité. On construit quelque chose, on sait que c'est pas parfait, on sait qu'on va le perfectionner dans le futur parce qu'on va continuer de s'intéresser à la chose, puis ça devient de mieux en mieux puis de plus en plus proche de ce que c'est pour vrai.
Exactement, je trouve que c'est vraiment bien imagé. Puis quand on s'est renseigné, puis on sait pourquoi on croit en quelque chose, puis on a adopté une ligne directrice, c'est beaucoup plus facile après de confronter nos propres idées parce qu'on se dit, moi, je me base pas sur... J'ai pas fait ce choix-là parce que je suis une bonne ou une mauvaise personne. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai appris que le lait, c'est inflammatoire, donc je prends pas de lait, par exemple. Donc, je me suis basée sur le fait que quelqu'un d'autre a amené, pas sur le fait que moi, j'ai fait des bons choix ou pas, là. Donc, souvent, si on réfléchit pas aux raisons pour lesquelles on adopte une ligne directrice puis qu'on se fait confronter, on a l'impression que c'est nous qui est pas bon, au lieu de nos sources.
C'est de ne pas s'identifier, en fait. C'est comme en ce moment, ce qui se passe avec la pandémie. Tu sais, tantôt, Marc-André, tu parlais les moutons, les anti-masques. Tu sais, c'est comme si là, on est rendu qu'on s'identifie dans une gang. Tu sais, là, moi, je suis un mouton, moi, je suis... Tu sais, c'est comme si là, ça devient notre identité. Fait que quand quelqu'un nous traite de mouton, on le prend super mal. Ou quand quelqu'un se fait traiter d'anti-masque, ben là, il le prend super mal. Puis tu sais, j'ai vu beaucoup de choses sur Facebook. Disait, ben, on peut être un anti-masque, mais respecter les règles. T'sais, on peut ne pas aimer ça, porter un masque, mais le porter pareil. Donc, tu sais, il y a comme encore là, il y a des nuances. Puis quand on s'identifie trop à quelque chose, ça peut devenir très, très dangereux, comme Carmen le dit. Là.
je ferais aussi peut-être la distinction entre est-ce que j'ai une opinion ou versus justement, est-ce que c'est une opinion que j'ai ou si c'est vraiment une certitude, un fait? Tu sais, dans le sens que les faits, c'est scientifique, ça a été testé, c'est là. Tandis que tu dis qu'une opinion, je suis d'accord que tu peux avoir un débat par rapport à ça, là, mais il y a aussi beaucoup de faux débats, justement. La Terre est plate, rendue là, c'est pas... Tu sais, si je veux dire, c'est un fait, là. Ça a été prouvé, genre, je sais, puis le monde continue à se... C'est ça, j'ai de la misère aussi. Tu sais, des fois, tu vois ça sur Facebook, ben c'est mon opinion. Mettons que les masques, qui marchent pas. Bon, mais ça a été montré scientifiquement. C'est pas une opinion, c'est même pas un débat que tu as à avoir, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai de la misère avec cette notion-là des faux débats, peut-être.
Ou les fausses statistiques, notamment, là, on a vu passer récemment sur Facebook là, les comparaisons entre la grippe en 2018 puis la COVID de l'année pas finie. Donc, des statistiques de deux choses, des pommes et des poires, si on veut, parce qu'on ne peut pas comparer. C'était pas le même environnement, c'était pas les mêmes circonstances, c'est pas la même année, puis c'est pas le même virus. Fait que, tu sais, on peut pas comparer, mais pourtant, on voit les données côte à côte sur Facebook. Puis là, ben qu'est-ce que ça fait? Ben les gens, ils disent, ben là, c'est pas pire que la grippe, cette histoire-là. Pourquoi qu'on est enfermé chez nous? Fait que, tu sais, ça crée une espèce de commotion collective qui aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient publié ces données-là, qui se placent même pas une à côté de l'autre. Donc, ça, c'est de la validité encore. Hein.
On dirait que juste ça, en soi, c'est un phénomène, là, les gens qui s'improvisent épidémiologistes, dans le sens que, tu sais, mettons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon garage, je vais aller voir mon garagiste, c'est ce qu'il fait, tu sais, j'y fais entièrement confiance, là. Si j'ai un problème avec mon évier, je vais appeler le plombier, puis c'est fine, tu sais.
Si tu veux faire couper tes pointes, tu vas aller voir ta coiffeuse, c'est ça.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, la gang de la santé publique, elle sait ce qu'elle fait. T'sais, elle est pas, je veux dire, c'est pas, t'sais, ils ont été formés là-dedans, ils ont réfléchi. Ben, pis ça, on a eu le débat la dernière fois, justement, t'sais, il y a eu combien de temps qui a été pensé en arrière de chaque décision qui a été prise. Fait que, à un moment donné, je me dis aussi, ben, dans le fond, gars, c'est sa job, c'est ce qu'elle fait, là, t'sais, improvise-toi pas, épidémiologiste.
C'est comme si les gens osent plus s'improviser. Scientifique qui oserait s'improviser, même garagiste ou tu sais, je veux dire, moi, j'irais pas faire le changement d'huile de quelqu'un, mais je vais peut-être être à l'aise de dire, ah oui, le lait est inflammatoire, tu sais, alors que j'en ai aucune espèce d'idée.
Mais tu vois, en même temps, dans ce qu'on a dit, c'est qu'on encourage les gens à s'improviser épidémiologiste, à s'intéresser puis à essayer de comprendre puis tout ça. C'est juste dans l'affirmation de ton opinion par la suite qu'il faut que tu te gardes des réserves puis que tu réalises que ton cheminement dans ce domaine-là, il vient de commencer. Puis que...
Écoutez, je pense qu'on ne s'est pas trop trempé dans cette question-là de conseils pour les gens, mais je pense qu'avec ce qu'on a discuté, ça donne quand même une idée aux gens de comportement peut-être à adopter quand on choisit qu'est-ce qu'on consomme en termes de nouvelles.
Peut-être pour faire court, de juste passer vraiment du temps, de ne pas se pointer puis passer 15 minutes à convaincre quelqu'un d'une chose sur laquelle tu as lu une minute. C'est bizarre. Fais l'inverse. Passe 15 minutes à lire sur la chose puis une minute à convaincre ton voisin, mettons. Ça va être une meilleure proportion.
Puis, tu sais, on l'a dit dans nos rencontres précédentes aussi, précédant ce balado-là, ben tu sais, la phrase à retenir, ce serait peut-être de converser au lieu de convertir, tu sais. Essayer de discuter plutôt que d'essayer de convaincre. Donc, ça pourrait être la piste à suivre pour nos auditeurs d'aujourd'hui.
Alors, c'est ce qui va conclure, en fait, la série de 3 balados qu'on vous a offert sur le phénomène des fausses nouvelles. On espère que les conseils et les discussions qui ont eu lieu ici avec mes 3 panélistes vous auront aidé, en fait, à voir plus clair dans ce phénomène-là qui est de plus en plus présent et que peut-être que ces conseils-là vont vous aider à faire des meilleurs choix et à faire des meilleures recherches dans un avenir rapproché. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve pour un autre balado avec un autre sujet, toujours avec l'IPS et des nouveaux panélistes probablement pour cet épisode 8 qui ne sera tardé. Merci beaucoup, à bientôt.